de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Élu membre de l'ECOSOC, l'Indonésie fera avancer le programme 2030. La manipulation de COVID-19 sera une priorité de discussion lors du sommet de l'ASEAN. Pour réduire la pauvreté en 2021, Sri Mulyani a besoin du soutien du Parlement. L'Indonésie a discuté de son projet d'ouvrir la boule des voyages. La construction de Situ Bagendit en tourisme de classe mondiale se poursuit. Voici le bulletin complet. L'Indonésie fera progresser le programme de développement mondial 2030, y compris les objectifs de développement durable, ODD, après avoir été élu membre du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, pour la période 2021-2023. Le représentant permanent de l'Indonésie auprès des Nations Unies, Dian Triansyah Djani, dans une déclaration écrite du représentant permanent de la République d'Indonésie à New York, a déclaré jeudi que pendant ses 3 années de service, l'Indonésie se concentrera sur la promotion d'un développement inclusif et durable. L'Indonésie continuera également de pousser l'ECOSOC à devenir un organe plus pertinent, transparent, efficient et efficace pour répondre aux défis mondiaux dans le domaine du développement économique, social et environnemental. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré jeudi, lors d'une conférence de presse en ligne depuis le palais présidentiel, qu'en raison de l'urgence de la question COVID-19, elle était convaincue que les efforts pour surmonter cette pandémie seraient un programme prioritaire lors du sommet de l'ASEAN la semaine prochaine. Auparavant, le Vietnam, en tant que hôte, avait proposé que le 36e sommet de l'ASEAN se tienne en face à face dans la ville d'Anang. Cependant, la santé et la sécurité des chefs d'État, s'ils doivent se rendre au Vietnam au milieu de la pandémie de COVID-19, qui infecte encore la plupart des pays de l'ASEAN, est une considération majeure. Enfin, il a été décidé de tenir un sommet virtuel le 26 juin 2020. Malgré un séjour d'une semaine, Retno a déclaré que jusqu'à présent, l'Indonésie n'avait pas encore reçu l'ordre du jour officiel du sommet de l'ASEAN. Le ministère des Finances se concentrera sur la reprise économique en 2021 en réduisant le niveau de pauvreté qui a augmenté en raison du chômage qui a augmenté à la suite de la pandémie du COVID-19. La ministre des Finances Sri Mulyani, lors d'une réunion plénière avec le Parlement à Jakarta jeudi, a déclaré que le soutien du Parlement pour pouvoir formuler et mettre en œuvre une stratégie de croissance économique inclusive, de qualité et équitable était très important. Le Parlement devrait également soutenir des réformes politiques dans divers domaines qui réunissent véritablement à réduire la pauvreté et le chômage, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie de la population. L'Indonésie prévoit d'établir des réglementations d'ouverture limitée ou des bulles de voyage avec un certain nombre de pays. La bulle de voyage est une ouverture limitée des frontières transfrontalières avec d'autres pays, dont chacun a un nouveau type de virus corona ou COVID-19. Plusieurs pays ont entamé des discussions sur les arrangements concernant les bulles de voyage. La ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le palais présidentiel jeudi, a déclaré que les protocoles de santé étaient un élément clé dans la discussion du plan d'ouverture de la bulle des voyages. Elle a déclaré qu'elle tenait des pourparlers avec un certain nombre de pays à ce moment, avec une discussion totale sur diverses questions, notamment la portée de la réglementation et les conditions et la certitude des protocoles de santé. Le régent adjoint de Garut, Helmi Budiman, a déclaré le processus de développement d'un objet touristique Situ Bagendit dans le district Banyuresmi, région Garut, Jawa West, pour devenir un tourisme de classe mondiale, se poursuit. Helmi Budiman, jeudi à Garut, a expliqué que le gouvernement central impliquait 4 ministères, à savoir le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, le ministère des Finances et le ministère des Transports et le ministère des Travaux publics et du Logement public dans le plan de développement du site touristique Situ Bagendit. Helmi Budiman a ajouté que cette synergie fera de l'objet touristique Situ Bagendit un tourisme de classe mondiale afin d'encourager la croissance économique et d'améliorer le bien-être de la communauté locale. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Gorontalo. Le gouvernement de la région Gorontalo en province Gorontalo a lancé mercredi dernier à Limboto l'application correspondance électronique en nuage, Simaya. Le directeur du bureau de communication et d'information de la région Gorontalo, Haris Tome, a déclaré que l'application faisait partie des services de numérisation dans l'environnement du gouvernement local mandaté par le régent de Gorontalo, Nelson Pomalingo. Simaya est une application qui peut accueillir la mise en œuvre du nouveau normal au milieu de la pandémie de COVID-19 dans la région afin qu'elle puisse fonctionner de manière optimale. En outre, l'application permet également aux dirigeants de l'organisation de l'appareil régional d'effectuer la disposition des lettres de n'importe où tant qu'elles sont prises en charge par le réseau Internet. L'application Simaya peut mesurer les performances des appareils grâce à des enregistrements numériques. Ensuite, l'info de Lebak, Banten. La destination touristique Baduy à l'intérieur de la région Lebak, Banten est toujours fermée pour empêcher la propagation de COVID-19, même si le nouvel ordre de vie a commencé. Le chef de la section des destinations du bureau touristique de Lebak, Usep Suparno, à Lebak a déclaré mercredi que son équipe devait se coordonner avec le groupe de travail local pour ouvrir la zone touristique de Baduy. Le gouvernement de la région Lebak n'a pas été en mesure de confirmer la réouverture de la destination touristique Baduy traditionnelle, en particulier le cas de patients COVID-19 dans cette zone augmente. Pendant ce temps, la région Baduy est interdite aux touristes. Les résidents de Baduy ne sont pas autorisés à sortir de la zone, sauf s'ils ont des besoins importants. L'ouverture de la zone touristique Badouy doit répondre aux exigences, notamment dans la volonté de faire face à une nouvelle ère normale et les recommandations de l'équipe du groupe de travail de la Régence Lebak. En outre, les destinations touristiques doivent se conformer à la lettre circulaire du bureau de la Régence Lebak concernant l'appel aux gestionnaires de destinations touristiques à mettre en œuvre des protocoles de santé et se coordonner avec les médecins locaux. Cependant, le chef de village Kanakas, Jaro Saïdja, a déclaré que la fermeture de la zone touristique de sa région visait à empêcher la propagation du virus corona d'entrer dans la communauté de Badouy. La dernière info est venue de Surabaya, Javaès. Le président du conseil de la mosquée indonésienne, Youssouf Kalla, a déclaré que la mosquée nationale Al-Akbar à Surabaya est devenue un modèle pour la gestion des lieux de culte dans la nouvelle ère normale. Lors de sa visite à la mosquée mercredi dernier, Youssouf Kalla a déclaré avoir apprécié le directeur de la mosquée Al-Akbar qui nettoie la mosquée 5 fois par jour. Il espère que la mosquée apprend également aux fidèles à toujours maintenir et à adhérer à la propreté et à garder une distance lorsqu'ils y sont. Youssouf Kalla, accompagné du vice-gouverneur de Javaès, Emil Elestianto Dardak, a également pris le temps d'examiner une zone de toilette propre et des eaux usées qui pourraient encore être utilisées pour arroser les plantes. Il espère que la question de la propreté de la mosquée Al-Akbar pourra être un exemple pour d'autres mosquées. Cependant, le secrétaire de la mosquée Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, a dit que la visite de Youssouf Kalla vise à s'assurer que la mosquée est prête à affronter une nouvelle ère normale. Depuis le début, la mosquée Al-Akbar a mis en place des procédures opérationnelles standards pour les protocoles de santé conformément aux directives gouvernementales. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 20 juin. Le 20 juin 1912, la vitamine est trouvée. Le 20 juin 1912, le docteur Casimir Fan de Pologne a réussi à trouver une substance très utile dans les aliments et il a appelé cette substance sous le nom de vitamine. Des scientifiques tels que Casimir Fan et Saint Gheorghi ont tenté d'isoler et de séparer les vitamines des aliments, mais ils ont constaté que les vitamines séparées n'avaient pas des effets aussi efficaces que les vitamines qui étaient naturellement mélangées à la nourriture. Le 20 juin 1966, Giuseppe Farina, le premier champion du monde de course automobile de Formule 1. Emilio Giuseppe Farina, qui est décédé le 20 juin 1966 à l'âge de 59 ans, était un coureur automobile professionnel d'Italie. Emilio a été le premier champion du monde de F1 de l'histoire lorsque l'événement de course automobile le plus prestigieux du monde a commencé en 1950. Ses débuts en F1 ont commencé à Silverstone en 1950 avec des voitures Alfa Romeo. Jusqu'à la fin de sa vie, Farina a poché 33 départs avec 127 points. Il a également remporté 25 courses et produit 5 fois le meilleur tour. Le 20 juin 1991, le Parlement allemand décide de déplacer la capitale de Bonn à Berlin. Depuis la Première à la Seconde Guerre mondiale, la ville Berlin est la ville la plus importante pour la nation allemande. Mais après la Seconde Guerre mondiale et la poursuite du conflit idéologique communément appelé la Guerre froide, l'État allemand fut divisé en deux. Parce que la ville Berlin était dans la partie orientale de l'Allemagne, qui était contrôlée par les communistes, Berlin est devenue la capitale de l'Allemagne de l'Est, tandis que les Alliés contrôlaient la partie ouest, qui fut finalement appelée l'Allemagne de l'Ouest avec la capitale Bonn. Mais à partir du 2 juin 1991, le Parlement a transféré la capitale de Bonn à Berlin. Bonn est une ville de l'État de Rhénanie du Nord-Rhin-Westphalie en Allemagne. La ville est située à environ 20 km au sud de Cologne sur le Rhin. Bonn a été la capitale de l'Allemagne de l'Ouest de 1949 à 1990. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
She's so damn pretty.
Mataku memandang pada seorang gadis. Tak pernah kulihat dia di hari-hariku. Kencang saat aku mendekatinya. Say
oh 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 oh,
ingin ku sapa dia. Hey
Yahoo,
dia cantik sekali.
Yahoo,
dia lucu sekali.
Ooh.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, l'Indonésie a été élue membre du Conseil économique et social des Nations Unies. L'Indonésie a été élue membre du Conseil économique et social ECOSOC des Nations Unies de la période 2021-2023 du groupe Asie-Pacifique lors d'élections à huis clos au siège des Nations Unies à New York le 17 juin 2020, heure locale du matin. C'est la déclaration du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta reçue par Antara jeudi. Contrairement au processus précédent, cette élection s'est déroulée sans séance plénière afin d'empêcher la propagation du virus COVID-19. À cette occasion, des représentants de chaque mission permanente à New York étaient présents pour voter. L'Indonésie a obtenu 186 voix sur un total de 190 voix. Outre l'Indonésie, le Japon avec 185 voix et les îles Salomon avec 187 voix ont également été choisis pour représenter le groupe Asie-Pacifique. En tant que membre de l'ECOSOC, l'Indonésie est déterminée à continuer de participer activement à la promotion de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. L'Indonésie continuera également de travailler pour accroître son rôle dans la discussion des questions stratégiques, en particulier dans les agences spéciales relevant de l'ECOSOC, notamment FAO, OMS, OMI, OACI et AIEA. Être membre du Conseil de l'ECOSOC a une signification importante pour l'Indonésie. L'Indonésie peut utiliser la plateforme ECOSOC pour encourager les efforts de relance économique et sociale après la pandémie de COVID-19. En outre, cela reflète le leadership mondial de l'Indonésie dans l'accélération de la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Être membre du Conseil de l'ECOSOC est également utile pour faire avancer les programmes prioritaires nationaux qui sont conformes au ODD, tout en contribuant à la transformation économique. L'ECOSOC est l'un des six organes principaux des Nations Unies chargés de coordonner les domaines économiques et sociaux, en particulier ceux liés à la portée des travaux de 15 organes spéciaux, 8 commissions fonctionnelles et 5 commissions régionales placées sous son autorité. L'ECOSOC se compose de 54 pays membres élus chaque année pour des mandats de 3 ans qui se chauffagent. C'est la 12e fois que l'Indonésie est devenue membre de l'ECOSOC après la dernière période en 2012-2014. Au cours de sa longue histoire de membre de l'ECOSOC, l'Indonésie s'est vue confier deux fois la présidence de l'ECOSOC en 1970 et 2000. En outre, l'Indonésie a été vice-présidente de l'ECOSOC en 1969, 1999 et 2012. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Coba melewatinya, lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant le culinaire de Kalimantan Sud, nommé Pundut Nasi. Bien que le culinaire Pundut Nasi ne soit pas aussi célèbre que d'autres culinaires de Banjarmasin comme Soto Banjar et Ketupat Kandangan, mais le culinaire Pundut Nasi n'est pas moins délicieux que les autres culinaires typiques de Banjar. Pundut Nasi est également l'un des délices culinaires traditionnels typiques de Banjarmasin. Banjarmasin est situé dans la province Kalimantan Sud. Comme son nom l'indique, dans la langue Banjar, pundut signifie enveloppé. Pundut nasi est emballé avec des feuilles de bananier. Le goût de pundut nasi est très savoureux, car il est cuit à la vapeur avec du lait de coco épais et aussi des feuilles de laurier, des feuilles de pandan, de la citronnelle et d'autres herbes. Pour que l'arôme du pundut nasi soit plus parfumé, après avoir été cuit, il est enveloppé dans des feuilles de bananier. Parce qu'il est vendu en petites portions, ce bol de riz est parfait pour le petit déjeuner. Le pundut nasi est généralement plus approprié lorsqu'il est consommé avec du poisson en liège cuit rouge, mieux connu sous le nom de iwak haruan kui habang. Des œufs de canard, du poisson pupuyu est ajouté avec une touche de sauce lapat et d'épices habang ou d'épices rouges, typiquement Banjar. Pour un paquet de pundut nasi, vous n'avez qu'à payer 3000 rupiah. Mais si vous ajoutez des accompagnements, bien sûr le prix est différent. Si vous visitez Kalimantan Sud, prenez le temps de prendre le petit déjeuner avec pundut nasi. Cher ami, c'était le magazine culturel.
Menyisakan perih pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en titre. L'Université Lambung Mangkurat a produit des produits innovants pendant la pandémie. L'Université Lambung Mangkurat a produit un certain nombre de produits innovants pendant la pandémie de COVID-19, tels que des ingrédients naturels à base de plantes et des désinfectants et le liquide pour le lavage des mains dont la communauté avait grandement besoin. Le chancelier de l'Université Lambung Mangkurat, le professeur Sutarto Hadi, a expliqué que son parti continuait de s'efforcer pour que les avantages des produits fabriqués puissent être ressentis par la communauté au sens large. Des produits innovants sont développés au Centre des sciences et de la technologie, Centre d'innovation en technologie, de commercialisation et de gestion, forêts et zones humides et incubateurs d'entreprises technologiques. Le Centre pour l'innovation technologique dans la commercialisation de la gestion, les forêts et les zones humides, entre autres, produisent divers ingrédients naturels de plants à partir de produits forestiers tels que des piquets de terre, des nids de fourmis, de la cannelle, des pyrates, des racines jaunes. Ensuite, les produits à base de sirop de cannelle, le thé à base de plantes de ginseng, le kelakai et diverses épices comme la citronnelle, le pandanus et le gingembre. Les épices produites, a déclaré Sutarto, devraient contrôler les cellules afin que le corps ne soit pas infecté. Selon lui, les bienfaits des herbes n'ont pas encore été prouvés pour guérir les maladies causées par COVID-19, mais l'utilisation d'herbes peut augmenter l'endurance. Les chercheurs ont également produit un liquide pour le lavage des mains à base de produits forestiers à base de plantes, avec la composition du matériau arrangé de manière à ce qu'il réponde encore aux normes de l'OMS. Actuellement, il existe plus de 6 variants, à la fois en gel et en liquide, avec anchois de cannelle, rose, camomille, orange et aloe vera. De plus, un liquide désinfectant à base de plantes typiques de produits forestiers qui ont un arôme à base de plantes distinctifs est fabriqué en ajoutant des extraits de plantes et du vinaigre de bois ou de la fumée liquide qui sont réglementés dans certaines compositions afin qu'ils répondent toujours aux normes de santé et de sécurité. Dans l'incubateur technologique, il existe un produit thé manjakani qui fonctionne comme une boisson pour la santé des femmes et prétend être très bonne pour maintenir la santé et l'immunité du corps d'une femme, en particulier pendant la pandémie actuelle de COVID-19. Un autre produit est le Pasak Bumi Borneo. Comme le thé manjakani pour la santé des femmes, la poudre effervescente instantané du piquet de terre et pour la santé et l'immunité des hommes. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Cette édition présente une chanson de Kroncong dont le titre est Harum. Cette chanson, chantée par Sri Widadi, est l'une des chansons de l'album des chansons de Kroncong original, volume 4. Si d'autres chansons ou poèmes racontent généralement de la beauté des fleurs colorées, cette chanson parle de l'autre côté de la fleur, à savoir le parfum. Non seulement belle, les fleurs aux formes variées sont plus parfaites avec son parfum. Le parfum d'une fleur rend calme l'âme. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson de Kroncong de Sri Widadi, dont le titre est Harum, ou en français, parfumé. Bonne écoute!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.